Chapitre 68. Le dernier deuil. Dimanche, 20 août 2000, 3h21. Ferme en ruine de Lucien Verger, île de Mornecey. Tout d'abord, je crus qu'il s'agissait une nouvelle fois de la lueur du phare. Mais la lumière ne poursuivit pas sa ronde. Elle se figea sur la ferme, inondant la pièce d'une lumière crue. Valerino se précipita à la fenêtre, arme au poing. Il tenta de placer une main sur son front, en forme de visière, pour distinguer quelque chose à l'extérieur, mais un puissant spot l'aveugla.
« Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe ?»
hurla Maxime Prieur.
« Je ne sais pas !»
Valerino n'eut pas le temps de terminer sa réponse. Une voix masculine, presque irréelle, déformée et amplifiée par un mégaphone, résonna dans la pièce.
« Valerino, Ducouret, ouvrez la porte et rendez-vous sans résistance, vous êtes cerné !»
Valerino cassa la vitre de la fenêtre d'un coup de coude et, tout en restant à couvert, observa le champ abandonné devant la ferme. Il se retourna vers Thierry et Prieur.
« Des flics ! Plus d'une dizaine de bagnoles, putain ! Comment ils ont fait pour nous retrouver ?»
Il me lança un regard terrifiant, sans comprendre. Thierry s'avança, presque à découvert devant la fenêtre.
« C'est fini, Jean-Louis. On a misé et on a perdu. On va pas jouer au cow-boy. On se rend. »
Valerino se précipita vers la trappe, celle par laquelle nous étions entrés, qui menait au souterrain. Il l'ouvrit. On entendit distinctement des bruits sourds, des coups de masse. La police tentait de percer le tunnel obstrué par Valerino et ses complices.
« On est coincés !» s'énerva Maxime Prieur. « Foutu, comme des rats ! Tout ça pour ça !»« Non !» hurla Valerino. « Il nous reste une chance !»
Il se tourna vers moi. Ses yeux brillaient d'une folie désormais non contrôlée.
« Il nous reste une monnaie d'échange, un otage. Ils tireront pas sur un otage. »
Maxime Prieur le regarda avec inquiétude.
« C'est fini, Jean-Louis. Tu veux aller où avec ton otage ?»« Sortir ! Le bateau est à moins d'un kilomètre. On peut l'atteindre. »
« Et après ?» fit Prieur. « Une fois sur ton bateau. Tu crois qu'ils n'ont pas de bateau, eux aussi ? Pas d'hélicoptère ?»
La voix dans le mégaphone perça une nouvelle fois les murs de pierre de la ferme.
« Sortez sans résistance. Vous n'avez aucune chance. Nous contrôlons toutes les issues. » « Faites d'abord sortir Colin Rémy, puis sortez ensuite les mains sur la tête, sans armes. »«
C'est fini, Jean-Louis, » insista Maxime Prieur. « On s'est pas ennuyé pendant 10 ans avec tes idées à la con. Du sabotage du tunnel à l'enlèvement de Colin Rémy. Pas de sang, tu nous avais dit. Tu te rappelles, Jean-Louis ? Pas de sang. Désolé, moi je me rends. Après tout... »
Prieur esquissa un petit sourire avant de préciser.
« Après tout, moi, je n'ai tué personne. J'ai même pas d'armes.
Je me rends aussi. »
fit Thierry d'une voix morne. Brigitte ne dit rien. Elle se tenait recroquevillée, muette, à côté de la cheminée. Prieur s'avança vers la porte, prêt à l'ouvrir.
« Attendez !»
cria Valerino. Il braqua son revolver vers ses complices.
« Attendez !»
hurla-t-il à nouveau d'une voix démente.
« Rendez-vous aux flics si vous voulez. Moi, ils m'auront pas !»
Il pointa son revolver sur moi et me fit signe de me lever. Je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Il attrapa mon bras droit et, d'un geste déterminé, le tordit dans mon dos. La douleur fit fléchir mes jambes. Il relâcha un peu l'étreinte.
« Marche ! Ouvre la porte ! On sort !»
J'allais lui servir de bouclier. Si je tentais quelque chose, il m'abattrait sans hésiter. Dehors, les flics n'allaient-ils pas tirer eux aussi ? Ils devaient avoir posté des tireurs d'élite, quelque chose comme ça. Mais prendraient-ils le risque de me toucher ? Oui, il le fallait. Mieux valait une balle perdue que de continuer cette cavale désespérée avec ce fou. Valerino observa une dernière fois ses complices. Aucun ne bougeait. Aucun ne semblait décidé à le suivre.
« Ouvre la porte !»
hurla-t-il. Il tordit à nouveau mon bras. De ma main gauche, je baissai la clenche. Je poussai. La porte ne bougea pas.
« Donne un coup de pied !»
ordonna Valerino. Je poussai plus violemment la porte. Elle céda d'un coup. Valerino força plus violemment encore sur mon bras droit pour m'interdire toute initiative. Une lumière aveuglante m'agressa. J'entendis distinctement des ordres improvisés.
« Ne tirez pas ! Il est armé ! Il tient le gosse !»
Valerino, sans un mot, me pressa. J'avançai d'un mètre. Pourquoi ces flics n'osaient-ils pas tirer ? Valerino était toujours collé à moi, me poussant lentement à avancer, exerçant une traction forte sur mon bras.
« Tirez, nom de Dieu ! »
Rien. Le silence. La torsion de mon bras cessa soudain. Le silence encore. La main de Valerino s'ouvrit, laissant tomber son revolver dans l'herbe humide. Le corps dur de Valerino, collé à moi,
s'effondra doucement, sans un bruit. J'étais vivant. Valerino gisait dans l'herbe, à mes pieds, dans une mare de sang. Je me retournais, dos au projecteur aveuglant de la police. Brigitte se tenait devant moi, à garde, irréelle dans la lumière blanche. Elle serrait dans sa main la vieille faux rouillée posée contre la cheminée. Le sang coulait encore de la lame. Thierry et Prieur sortirent derrière elle, les mains sur la tête. Brigitte ne devait voir de moi qu'une silhouette noire. Elle murmura, sans presque bouger les lèvres. « Pour Anne. Pour ta maman. » Tout se passa ensuite très rapidement. Une dizaine de policiers, vêtus de gilets pare-balles, se précipitèrent sur Maxime Prieur, Thierry et Brigitte. Ils furent évacués vers un fourgon. Le rugissement des sirènes recommença. Une femme flic brune en uniforme vint me rejoindre et m'entraîna un peu plus loin. Une psychologue sans doute. Elle connaissait son travail. Elle me posa un minimum de questions, se contentant de me surveiller du coin de l'œil. On m'épargna l'évacuation du cadavre de Valerino dans une housse en plastique. La 106 de Lilien se gara quelques mètres devant moi. Un instant, je crus que j'allais avoir à subir l'interrogatoire d'un journaliste. Déjà ? À ma stupéfaction, ce furent Maddy et Armand qui surgirent des portières arrière.
« 80 à 11 heures !» hurla Armand. « T'es un génie, Colin ! On est des génies tous les deux !»
Maddy ne dit rien. Elle se contenta de me sourire, puis me prit dans ses bras, fort, longuement. Je sentais battre son cœur contre le mien. Je ressentais la même émotion que quand Nounou Martine m'avait serré contre elle il y a 3 jours, ses gros seins en moins. Les papillons dans mon ventre en plus. Notre étreinte dura bien au-delà d'une accolade virile entre camarades. Maddy me relâcha enfin. Elle semblait tout aussi troublée que moi.
« Contente que tu sois toujours vivant, Colin. »
Armand arborait un sourire radieux. Sa face ronde, ses lunettes, son petit corps chétif, tout me rassurait en lui.
« Il paraît que t'es milliardaire ?»
continua Armand.
« Orphelin pour de vrai et milliardaire. Waouh ! Je te raconte pas les gonzesses !»
Comme pour confirmer la prophétie d'Armand, une femme blonde s'approcha de moi, moulée dans une incongrue robe fourreau de velours pourpre. Elle ressemblait à une vamp des films de gangsters, en un peu plus vieille. Armand fit les présentations.
« Clara, une secrétaire pleine de ressources. Commence pas à fantasmer, Colin, elle aime que les vieux. »
Clara sourit de toutes ses dents blanches.
« Didier Delpech s'excuse. Il est reparti au journal. Finalement, il pense qu'il va sortir une édition spéciale de Lilien. »
Je grimaçai.
« Tu lui dois bien ça !»
affirma Clara. Elle me tendit son téléphone portable.
« Tiens, quelqu'un que tu ne connais pas mais qui veut te parler. Lui aussi, tu lui dois une fière chandelle. »
J'attrapai le téléphone, étonné.
« Colin Rémy ?»
fit une voix jeune et dynamique.
« Simon Casanova, vous vous souvenez, le garde champêtre de Lille. Ravi de vous savoir en vie.
Merci. »
bafouillai-je sans trop comprendre.
« Je pense que je vais dormir un peu tout de suite, mais je serai à Mornecey dès demain matin. J'ai quelques rendez-vous en retard à honorer, du côté de l'abbaye. J'ai surtout quelques souvenirs de votre père à vous remettre en main propre. De la part de son meilleur ami, un ami fidèle, Gabriel Borderie.
Merci,
répondis-je à nouveau, gêné, un peu perdu.
Colin, je peux vous demander un service?
Oui, bien sûr.
Mettez à chambrer pour moi une bouteille de Folie Mazarin. Je crois que je l'ai bien mérité.
Ce sera fait.
Il raccrocha. Je me sentais bête. Je rendis son téléphone à Clara. Elle me regarda, pensive.
Ce Simon Casanova est un peu crâneur, têtu comme un âne. Mais par contre, il est loin d'être con, et plutôt joli garçon. Et surtout, Colin, je crois qu'il t'a sauvé la vie.
Je bafouillais des mots incompréhensibles de remerciement. Elle me tournait déjà le dos, ondulant du bassin dans sa robe de vamp, le téléphone portable déjà à nouveau collé à l'oreille.
Elle est mieux de dos, tu trouves pas ?
Commenta Armand. Je ne répondis pas. Je voulais profiter du silence, rester seul.
Colin !
Je reconnus la voix monocorde du père Duval. Je me retournai. Il affichait un teint rougeau que je ne lui connaissais pas. Il portait d'une main un verre poussiéreux, sûrement déniché dans le vieux vaisselier de la ferme, et de l'autre une bouteille de vin. Les Sanguinaires, île de Mornecey, 1914. Le prêtre remuait le vin dans son verre avec la dextérité d'un sommelier professionnel.
« Je n'ai pas pu résister au plaisir d'en ouvrir une, Colin. »
J'avais du mal à réagir.
« Et alors ?»
demanda Armand.
« Évidemment, il aurait fallu goûter quelques années plus tôt. 85 ans de garde, même pour des vins exceptionnels, c'est un peu beaucoup. »
Il aurait fallu changer le bouchon régulièrement. Il aurait aussi fallu le faire décanter.
C'est une piquette ? S'inquiéta Armand.
Le père Duval but une gorgée de vin, qu'il garda longuement en bouche. Il répondit en pesant ses mots.
J'ai bu, il y a moins d'un mois, un château Côte d'Estournel Grand Cru classé de 1986. 150 euros la bouteille, minimum. Je peux vous dire que ce Grand Cru, c'était une piquette à côté de ce domaine Saint-Antoine.
Maddy siffla, admirative. Le père Duval se pencha vers moi.
Il s'agit là d'un vin de garde extraordinaire, Colin. Mazarin avait raison, à cause d'un terroir exceptionnel, comme il n'en existe que quelques-uns en France. Un vieux terroir oublié par l'histoire. Cela arrive, jusqu'à ce que ton père le redécouvre. Si tu décides d'exploiter à nouveau ce terroir, de replanter des vignes, alors mon garçon, ta gloire et ta fortune sont faites.
Je hochai la tête, sans trop savoir quoi répondre. Je regardais autour de moi, gêné. Maddy me souriait et j'aimais son sourire.
Merci à tous. Merci. J'ai besoin d'être seul, je crois.
Sans dire un mot de plus, je m'éloignai un peu, quelques mètres. Je gravis la pente du petit champ, devant la ferme, pour me retrouver le plus haut possible. J'avais repéré une petite colline surmontée d'un vieil arbre mort, tordu. Je m'assis sur la colline, le dos contre le tronc de l'arbre. L'herbe était mouillée. Peu importe. Comme je l'espérais, de ce belvédère, on découvrait une belle vue sur la mer, le phare, la côte rocheuse du sud-est de l'île, les vagues qui se brisaient sur les roches noires. Je fermai les yeux, je les rouvris. J'étais bien. Le bruit des vagues, la mer immense. L'horizon au loin vira au rouge. La mer s'embrasa. Le soleil se levait déjà. J'avais sans doute dormi un peu. Un nouveau jour. Une nouvelle vie. Il me restait à lire la lettre d'adieu de mon père, celle déposée chez le notaire, lorsque la police la trouverait, me la rendrait. Cette lettre qui accusait. Peu m'importait désormais. J'étais bien. Il fallait que je vienne ici, arpenter les décombres de ma jeunesse. Je l'avais accepté. Mon père était mort. J'étais orphelin. J'avais fait le deuil. Enfin. Il m'avait fallu 10 ans. Mon père était mort, en héros. Maman avait raison. Sa prophétie se réalisait après toutes ces années. Un jour, tu retrouveras papa. Je ne l'avais jamais revu. Mais aujourd'hui, je l'avais retrouvé.